Aujourd'hui, avec le père Henri Lefer.
Après avoir vu Ève, Sarah et Anne, nous voyons à présent Judith. Nous sommes au temps des prophètes, après le retour d'exil du peuple d'Israël. Le général Holoferne a été envoyé par Nabucodonosor, roi des Assyriens, pour châtier Israël, qui s'est rendu coupable de refuser par deux fois de se soumettre à ses ordres. L'armée assyrienne arrive en Judée et met le siège devant Béthulie, présentée comme la ville qui défend l'accès à Jérusalem et à son temple. En bon stratège, Holoferne contrôle tous les accès et n'a plus qu'à attendre que la faim et la soif poussent les habitants à se rendre. Les supplications qu'il s'entête à élever vers le ciel n'y changeront rien. Le siège dure maintenant depuis 34 longs jours. Le courage s'épuise au même rythme que les citernes. La population commence à reprocher au chef Ozias ne pas s'être incliné devant Nabucodonosor. Dans son désespoir, elle lui demande même de livrer la ville à Holoferne. Tout plutôt que la mort à petit feu, en souffrant les affres de la soif. De guerre lasse, Ozias plaide pour un délai de 5 jours. C'est à ce moment qu'intervient Judith, veuve, très pieuse et riche, nous dit le texte. On entreaperçoit déjà la Vierge Marie autrement plus riche, puisque même l'ange Gabriel s'inclinera devant celle qui est pleine de grâce. Alors que c'est le serpent qui avait séduit Ève et l'avait entraînée à la blessure du péché originel, avec Judith, on a l'annonce de la revanche de la femme sur le serpent, telle qu'annoncée dans le proto-évangile, dans la Genèse. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Ici, le serpent, ou le mal, c'est Holoferne, général en chef des armées assyriennes ennemies, qui assiège la ville de Béthulie et la coupe de son approvisionnement en eau. Le désespoir guette la ville et les hommes veulent se rendre. Ozias, le chef du peuple, demande de persévérer encore 5 jours pour laisser à Dieu le temps de répondre et de venir à leur secours, mais sans grande espérance. L'humanité pécheresse soupirait et désirait ardemment la venue d'un rédempteur. Quand Dieu s'est penché sur l'humilité de sa servante, le jour de l'Annonciation, de l'ange Gabriel, tous, nous avions le regard suspendu aux lèvres de Marie et attendions son oui au plan de Dieu. Judith, comme Marie, vient au secours du peuple persécuté. Saint Bernard dira « Le démon parcourt le monde cherchant des âmes à dévorer. Marie, elle, parcourt le monde cherchant des âmes à sauver. » Marie, qu'on invoque justement comme le secours des pécheurs ou encore comme la consolatrice des affligés. Les Hébreux sont donc perdus, désespérés quand Dieu suscite Judith, qui, telle la mère du bon conseil, telle la figure de l'Église enseignante, guide le peuple de Dieu et va lui reprocher son manque de confiance. Judith est totalement habitée par la crainte de Dieu et sa confiance est sans limite. La Vierge Marie aussi, à Cana, témoignera d'une foi admirable et obtiendra de son divin Fils son premier miracle. Jésus ne saurait résister à la grâce de sa mère. Faites tout ce qu'il vous dira. Judith ne fait pas que prier, elle agit en faveur du peuple qu'elle a en compassion, car il souffre et il n'en peut plus. On peut y voir la figure de Notre-Dame du Bon Secours. Marie, médiatrice de toute grâce, Marie qui défend la vie de ses enfants et les prend sous son manteau. Au terme de 3 jours, une durée si souvent associée dans la Bible à l'œuvre de Dieu, les événements se précipitent. Holoferne n'en peut plus de savoir Judith dans le voisinage. Il la désire de plus en plus et il l'invite à un banquet. Enivré par sa présence, il se sert du vin en abondance. Quand finalement, tout le monde se retire pour le laisser seul avec Judith, il s'effondre sur son lit, ivre mort. Judith s'éclipse pour une dernière prière, puis elle revient. Avec une détermination sans faille, elle saisit alors le sabre, abandonné par le général, et de deux grands coups parvient à lui détacher la tête qui roule sur le sol. Elle la ramasse, sort de la tente, la tend à sa servante qui la met dans sa besace. Judith va donc réussir à séduire Holoferne. On voit ici le renversement des rôles avec le récit du péché originel, sachant que Marie est la nouvelle Ève. L'humilité triomphe de l'orgueil. L'œuvre de Dieu apparaît d'autant plus lumineuse qu'il n'a pas recours à un guerrier ou à une armée. Il se sert d'une femme sans défense pour venir en aide à son peuple en difficulté, forte de sa foi. Judith s'aventure dans le campement ennemi, subjugue le général par sa beauté et le supprime de façon humiliante. Dieu a une prédilection pour ce qui est fragile et ce qui est faible, et qui pour cette raison manifeste avec éclat la puissance divine. Judith est également une figure exemplaire servant à exprimer la vocation et la mission de la femme, appelée comme l'homme, selon ses capacités et qualités spécifiques, à jouer un rôle significatif dans le dessein de Dieu. Marie, comme Judith, est celle qui est appelée à écraser la tête du serpent Satan pour délivrer tout le genre humain grâce à la puissance salvifique de Dieu. Dieu s'est penché sur son humble servante, Judith, en lui donnant force, courage et victoire pour sauver la vie de son peuple et protéger le temple saint. C'est pourquoi le peuple l'acclamera. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es le grand honneur de notre race, béni sois-tu par le Seigneur Tout-Puissant dans la suite des temps. Verset que vous aurez peut-être reconnu que nous utilisons toujours de nos jours pour la liturgie lors des fêtes mariales. Dans tout le chapitre 16, Judith entonne un chant d'action de grâce où elle glorifie la grandeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui intervient en sa faveur, ainsi que de celle de son peuple pour le délivrer et le sauver de l'ennemi. On peut très bien faire le lien avec Marie, qui chante son Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Elle est la gloire de Jérusalem, en portant le Sauveur en son sein. » Notre petite précision, le nom de Judith, Yehoudit, la juive en hébreu, fait d'elle l'incarnation du peuple juif dans tout son ensemble, auquel Dieu prête main forte, car elle reste fidèle à la loi. De plus, si l'on regarde chaque ancêtre cité dans sa généalogie, il renvoie à des tribus d'Israël différentes. Judith est ainsi liée à l'ensemble du peuple hébreu, tout comme Marie et l'image de toute l'Église. Quand ils virent Judith, le visage transformé et portant d'autres vêtements, sa beauté les plongea dans la plus grande admiration. La beauté de Judith comme de Marie ne réside pas tant dans une beauté extérieure que dans la beauté de leurs âmes qui sont tournées vers Dieu et veulent accomplir sa volonté. Sa vraie beauté venait d'un cœur plein de foi qui adorait Dieu. La beauté de la Vierge Marie, elle, est intimement liée à son Immaculée Conception. Marie laisse passer toute la lumière comme dans un cristal. Il n'y a pas l'ombre d'un péché en elle. La lumière, c'est Dieu. Quand je vois Marie, je contemple Dieu qui est là, présent. Dieu agit avec la libre collaboration de l'homme. Nous disons bien que Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Judith est un instrument choisi par Dieu pour épargner le peuple élu. Marie est devenue mère de grâce à la puissance de Dieu et grâce à son oui, sa foi, son adhésion au plan de Dieu. En effet, bienheureuse celle qui a cru. Par son humilité, son obéissance et sa confiance, elle écrase la tête du serpent. La bienheureuse Vierge Marie est l'exemple parfait de cette vie ordinaire remplie par les soins et les labeurs familiaux, Marie demeurait toujours intimement unie à son fils et coopérait à l'œuvre du Sauveur à un titre absolument unique. Les ennemis prirent position dans le vallon et s'emparèrent des points d'eau et des sources des fils d'Israël. C'est pour sauver son peuple de la soif que Judith intervient, le sauver du manque d'eau qui frappe toute la ville. Or, dans la Bible, l'eau, c'est le symbole de la vie, mais aussi de l'Esprit Saint et de la grâce qui nous vient par Jésus. C'est pour cela, d'ailleurs, durant le temps de l'Avent, nous supplions le ciel de nous donner la rosée céleste, le Messie attendu, avec l'hymne « Rorate Cheni des Super », cieux, épanchez-vous là-haut et que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut. Marie est celle qui nous donne justement cette eau venue du ciel. Saint Bernard qualifie la Vierge Marie d'aqueduc de la grâce. Ne t'arrête point parmi les anges, Vierge Sainte, la terre assoiffée attend de recevoir par ton intervention une eau désaltérante venue de plus haut. La vie de Judith illustre très bien le rôle de Marie comme mère de l'Église, comme celle qui, d'une façon absolument unique, est associée à l'œuvre de la rédemption du Christ. Judith intervient d'une manière efficace et ne recule devant aucun sacrifice, même pas celui de risquer sa propre vie pour sauver son peuple. Et en même temps, Judith, comme Marie, est un modèle de foi, d'espérance, de charité, d'adoration, de soumission et d'union à Dieu.